Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bienvenue à tous, si vous nous retrouvez, on est en direct. L'info avec le journal dans quelques secondes. 19h15, la carte blanche du Club des Idées avec l'économiste Nicolas Bouzou. Et 19h20, le grand débat. Comment rebondir à la cinquantaine? N'aucun cas on la forme et envie d'en profiter. Alors comment se réinventer professionnellement, notamment quand on a 53 ou 56 ans? Et l'amour dans tout ça, on en parlera aussi avec nos invités. Débat interactif ce soir, le standard est ouvert. On entendra donc vos témoignages. Le journal d'abord avec Christophe Lamarre. 19h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
C'est une très bonne nouvelle, on va pouvoir s'organiser pour enfin prendre rendez-vous pour tous les patients qui veulent se faire vacciner, quel que soit leur âge, enfin.
Enfin, ce cri du cœur d'un pharmacien après la recommandation de la Haute Autorité de Santé, il va lui aussi pouvoir vacciner contre le Covid.
Les infirmières et les sages-femmes aussi, cet élargissement et cette accélération visent le même objectif, éviter à tout prix un reconfinement national.
La réforme de l'assurance chômage va entrer partiellement en vigueur le 1er juillet. Elle s'appliquera pleinement à partir du 1er octobre. Son nouveau mode de calcul provoque la colère de l'ensemble des organisations syndicales.
À l'étranger, la junte au pouvoir en Birmanie franchit une étape de plus dans la répression. L'armée tire à balles réelles sur les manifestants et les journalistes systématiquement visés.
Dans ce journal, un portrait du nouvel entraîneur de l'OM. Il est là, Jorge Sampaoli est arrivé ce matin à Marseille. Et puis l'hommage à l'homme à tête de chou. Il y a 30 ans, Serge Gainsbourg quittait le monde des vivants. Sa maison rue de Verneuil va devenir un musée. Visite en avant-première.
La météo avec Anissa Haddadi qui nous annonce un temps printanier, mais avec quelques petites gouttes quand même.
Oui, dans le nord-ouest, Julien, en effet, des petites pluies seront de retour. C'est anecdotique, hein, ce sont des toutes petites averses avec un ciel un peu plus masqué, mais alors partout ailleurs, nous avons un soleil qui brille encore généreusement partout demain après-midi et des températures en hausse. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
C'est du brutal. La campagne de vaccination pourrait accélérer brutalement après la recommandation de la Haute Autorité de Santé. Les pharmaciens, les infirmières, les sages-femmes doivent pouvoir vacciner contre le Covid. Pas de restrictions particulières sur les vaccins. Enfin, dit Gilles Bonnefond, le président national de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine.
C'est une très bonne nouvelle d'apprendre qu'on aura accès à tous les types de vaccins. Ça va simplifier le parcours des patients. On va pouvoir s'organiser pour enfin prendre rendez-vous pour tous les patients qui veulent se faire vacciner, quel que soit leur âge. Enfin, jusqu'à maintenant, on ne parlait que de l'AstraZeneca en raison des problèmes de logistique et de conservation. Maintenant, on sait qu'avec les vaccins Pfizer et les vaccins Moderna, dès qu'ils sont sortis du congélateur, on peut les utiliser dans les 5 jours. Donc nous, si on les reçoit le lundi, on peut vacciner jusqu'au vendredi. Donc on rapproche les vaccins des patients. C'est le professionnel habituel du patient qui va pouvoir vacciner. Ça s'appelle une belle organisation, très simple, facile, pour accélérer la vaccination en France.
Gilles Bonnefond, le président national de l'Union des syndicats de pharmaciens, avec Zoé Pallier. L'exécutif qui veut à tout prix donc éviter un reconfinement national, mais il ne s'interdit pas de prendre des mesures plus fermes localement.
Le Conseil de défense sanitaire prévu demain à l'Élysée fera le point sur la situation. 20 départements restent sous très haute surveillance, notamment toute la région Île-de-France. La maire de Paris a redit son opposition à un confinement le week-end, sauf que, Claudia Bertram, cela fait partie des hypothèses étudiées par le gouvernement.
Oui, cela fait bien partie des possibilités, c'est ce qu'indique Matignon, en précisant toutefois qu'un confinement le week-end ne constitue pas le scénario privilégié et encore moins décidé. La possibilité d'opérer un tour de vis dans les 20 départements où le virus circule fortement sera au menu du Conseil de défense sanitaire demain matin. Les décisions seront prises en fonction du retour des concertations et de l'évolution de l'épidémie, nous précisons dans l'entourage du Premier ministre. Une méthode, celle de la territorialisation, rappelée cet après-midi à l'Assemblée par le ministre de la Santé, Olivier Véran.
Nous continuons à adapter ces mesures, nous continuons avec cette concertation dans les territoires, en espérant, mais j'en suis certain, que dans les 20 départements qui ont été placés en vigilance active, des propositions adaptées émergeront et que nous regarderons évidemment avec intérêt et avec envie d'avancer ensemble.
Jean Castex, ce matin, face aux députés En Marche, a reconnu que les jours et les semaines qui arrivent vont être difficiles. C'est ce que rapporte l'un des participants.
Claudia Bertram, merci du service politique d'Europe 1. Et c'était l'une des conséquences de la pandémie, la réforme de l'assurance chômage plusieurs fois repoussée, compensée même, enterrée. Eh bien, elle va entrer en application le 1er juillet.
Elle est repoussée deux fois, mais pas trois. On parle d'une mise en œuvre progressive, mais mise en œuvre tout de même. Colère des syndicats, le patronat n'est pas très enthousiaste à l'idée d'être taxé lui non plus. Il n'empêche, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a présenté ce matin les arbitrages du gouvernement, Olivier Samin.
Oui, ce qui entrera en vigueur le 1er juillet, c'est la mesure phare de la réforme, celle qui modifie le mode de calcul du montant des allocations. Mesure très critiquée par les syndicats puisqu'elle aboutit à une baisse de l'indemnisation mensuelle des personnes qui alternent des contrats courts et des périodes de chômage. Cette mesure sera donc bien mise en œuvre cet été, mais avec un plancher pour éviter des baisses trop fortes d'indemnisation. Deux autres mesures qui étaient prévues dans la version d'origine de la réforme n'entreront en vigueur qu'à partir du moment où le marché du travail aura repris des couleurs, soit au mieux à l'automne prochain. D'abord, l'augmentation du nombre de mois qu'il faut avoir travaillé pour pouvoir être indemnisé. Aujourd'hui, c'est 4 mois, ça passera à 6 mois, mais donc pas tout de suite. Et puis, deuxième mesure, la dégressivité des allocations pour les cadres qui gagnent plus de 4 500 euros bruts par mois. Cette dégressivité sera plus lente dans un premier temps et interviendra plus tôt quand le marché du travail s'améliorera. Enfin, s'agissant du bonus-malus frappant les entreprises qui ont fortement recours aux contrats courts, eh bien, il sera effectif à compter de l'été 2022 dans des secteurs bien définis, mais il ne concernera pas, dans un premier temps, l'hôtellerie-restauration.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Et puis c'est l'autre effet, non pas coronavirus, mais Brexit. Le Royaume-Uni continue d'acheter moins de produits allemands.
Oui, absolument. Les exportations allemandes vers le Royaume-Uni reculent de plus de 15% en un an, selon les estimations outre-Rhin. Une baisse amorcée il y a 5 ans maintenant et qui remonte au référendum sur la sortie de l'Union voté par les Britanniques.
En Birmanie, la situation reste très tendue 2 jours après une répression meurtrière qui a fait 18 morts selon l'ONU. Malgré les risques, les manifestants continuent de descendre dans la rue pour dénoncer le coup d'état militaire, Nicolas Feldman.
Oui, et la police, l'armée qui ne se limite plus qu'au gaz lacrymogène et au ballon caoutchouc. Nouvel exemple aujourd'hui à Calais, dans le nord-ouest de la Birmanie, avec ses tirs à balles réelles contre un rassemblement pro-démocratie. 3 manifestants ont été blessés, hospitalisés dans un état critique. Rassemblement aussi dans la capitale économique Rangoon. Là, les manifestants ont érigé des barricades de fortune. Ted Swewin était dans la rue aujourd'hui.
On ne fait que se défendre. Donc, on utilise tout ce qu'on a sous la main. Ça peut être des tables en bois, comme boucliers, des extincteurs pour se cacher dans la fumée quand la police et l'armée nous chargent. Je ne sais pas combien de temps tout cela va encore durer, mais nous devons rester dans la rue et rassembler encore plus de monde pour faire tomber ce régime militaire.
Coupure internet, vague d'interpellations, y compris de journalistes. Le régime durcit donc chaque jour un peu plus sa répression depuis un mois et le renversement du gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi.
Nicolas Feldman.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
19h09, la suite du journal. On parle football. Il était très attendu, vous le savez, le nouvel entraîneur marseillais a enfin, ça y est, débarqué à l'OM.
L'Argentin Jorge Sampaoli est arrivé en avion à l'aéroport de Marignane. L'homme a une carrière bien remplie en Amérique du Sud. Il a été notamment sélectionneur de l'Argentine d'un certain Lionel Messi. Mais en Europe, ce sera sa 2e expérience seulement. Et son profil n'a pas été choisi au hasard, Stéphane Frangy.
Bien sûr que non, puisque l'état-major olympien, au moment de valider son choix, n'a pas oublié le culte que beaucoup voient encore ici à Marcelo Bielsa. Ils sont donc allés débaucher son compatriote argentin, passé par le même club, un coach qui prône la même philosophie de jeu, offensive et agressive. Un choix validé sur le papier par de nombreux passionnés comme Rachid Zeroual. L'OM et Sampaoli, c'est un petit peu un mariage de raison.
On se rend bien au club, bienvenue chez les fous. Voilà, il y a le bienvenue chez les ch'tis, là c'est chez les fous. On dit que Sampaoli pourrait être un bon choix, ben on va voir. Ça correspond à la ville aussi, hein, le caractère qu'il a. On sait qu'il va remuer un peu le vestiaire, il se démerde avec son équipe. Hein. Lui aussi, quand il va arriver, il va comprendre les gens qu'il a dans le vestiaire, c'est à lui de faire avec.
Voilà, élu meilleur coach sud-américain en 2015. Jorge Sampaoli a roulé sa bosse un petit peu partout, en Argentine, au Pérou, au Chili. Surtout avec succès, un coach passionné et exigeant, capable de disjoncter, on l'a vu récemment en plein match, et de pénétrer sur la pelouse pour aller dire ses 4 vérités à l'arbitre. Il pourrait faire sa grande première sur le banc de l'OM mercredi prochain lors de la réception de Rennes.
Merci Stéphane Frangy. On reste en Ligue 1 évidemment. C'est pratiquement fait si l'on en croit l'équipe. Bruno Genesio va remplacer Julien Stéphane, décidément.
Ah oui,
on a du mal
aussi.
Hein, sur le banc de Rennes.
Allez, on va terminer avec un hommage et bien sûr un anniversaire puisqu'il y a 30 ans, Serge Gainsbourg nous quittait.
L'artiste a embrassé plusieurs styles, évidemment. Hommage en musique. Clin d'œil d'Europe 1. Vous savez qu'aujourd'hui, l'antenne d'Europe 1 s'est mise à l'heure de Serge Gainsbourg pour cette date anniversaire, ce qui ne l'empêchait pas, Serge Gainsbourg, d'exceller dans l'autodérision, témoin cet album qu'il avait intitulé L'homme à tête de chou.
Salué par la critique, d'ailleurs, il laisse en général une œuvre immense et bientôt un musée. On connaît le lieu, ce sera sa maison rue de Verneuil à Paris. Sa fille Charlotte le souhaitait depuis très longtemps. La devanture était déjà l'objet d'un véritable culte et à l'intérieur, il paraît que rien n'a bougé. Et figurez-vous qu'Angèle Châtelier a pu franchir les portes de la maison de l'artiste en exclusivité.
J'attends avec impatience. Dès que le musée sera ouvert, je vais venir.
Isabelle, une fan de Gainsbourg, regarde l'arme à l'œil, la façade. Il y a toujours les tags, les hommages, mais ce qui dénote, c'est un panneau, un permis de construire affiché sur la droite, délivré mi-décembre. Les travaux ont commencé pour accueillir du public.
Le 5 bis n'appartiendra plus aux fans, mais appartiendra à tout le monde.
Patrick, lui, vient tous les ans se recueillir devant la maison de son idole, qu'il va avoir du mal à partager.
Il y a un côté mythe qui s'en va, il y a un côté fantasme.
Mais qui profitera, il le sait, aux commerçants du quartier, comme les bars, aux alentours où Serge Gainsbourg avait ses habitudes.
Non, je sais qu'il allait au coin là-bas, pour comptoir des sandwichs. Je sais qu'il venait ici boire un verre pour se ressourcer, pour méditer aussi.
Et pour faire ses courses, il allait dans une boucherie du quartier à quelques mètres de chez lui.
Bonjour monsieur.
Excusez-nous.
On voit un tableau là de Serge, alors oui. Ça nous a interpellés.
Valérie, la co-gérante, se souvient de lui.
Il venait très souvent, il était très sympa. Voilà, décontracté, pas la grosse tête.
J'imagine que c'est une bonne nouvelle pour vous que la rue de Verneuil devienne un musée.
Ah oui, ça, on en est ravis. Pour les commerçants, ce sera agréable aussi d'avoir une rue qui s'anime un peu plus.
Le 5 bis rue de Verneuil devrait être accessible en petits groupes. La maison de 130 mètres carrés de Serge Gainsbourg est bas de plafond et exiguë.
Et évidemment, vous aurez reconnu derrière la bande son, bien sûr, la bande originale de Pacha, que certains artistes continuent d'ailleurs de sampler. Et le reportage d'Angèle Châtelier. Sachez que ce soir à 20h, de 20h à 21h, vous aurez un document exceptionnel sur Serge Gainsbourg, réalisé à partir des archives d'Europe 1 dans l'émission d'Émilie Mazoyer, bien sûr, de 20h à 21h. Et puis à partir de 21h, Émilie Mazoyer recevra Dany, Alain Chamfort et Lulu, le fils
de Serge Gainsbourg. Waouh, belle programmation.
Dany qui a repris évidemment comme un boomerang avec Étienne Dao, et puis Alain Chamfort, Manu Reva. Notamment
et Lulu qui est lui-même chanteur, carrière en solo. Merci Christophe, c'était le journal de Christophe Lamar. La météo, Anissa Haddadi qui nous annonce de la douceur au programme ce mercredi, ça fait du bien et ça va durer normalement encore un peu jusqu'au week-end.
Oui, c'est ce week-end que les températures vont nettement baisser. Alors on aura du très beau temps ce week-end, mais il fera plus frais. Alors je sais que vous aimez des chiffres, je vais vous en donner plein, Julien. 12 à 20 degrés, voilà les températures que nous aurons demain après-midi. Donc ça va grimper avec 12 à Saint-Brieuc, 13 à Brest, 14 pour Caen et La Rochelle. 16 degrés à Nice, Aurillac et Montpellier, 17 à 3 Besançon et Marseille, 18 degrés pour Paris, Lyon et Toulouse, 19 à Clermont-Ferrand et 20 degrés la maximale prévue dans le sud-ouest pour Mont-de-Marsan ou Bayonne. Demain matin, un petit peu de fraîcheur dans le nord-est avec moins 2 à Metz, 0 à Strasbourg et puis 2 à 10 degrés sur l'ensemble du pays. Dans le ciel, c'est ce que je vous dis depuis 18h, c'est-à-dire un grand soleil qui va régner sur les trois quarts de la France. Simplement le nord-ouest, la Bretagne, la Normandie et les pays de la Loire sous les nuages avec quelques averses. Et puis attention, sur la basse Normandie, demain après-midi, les orages pourraient éclater, mais c'est vraiment une perturbation qui est très peu active et qui va apporter que quelques gouttes seulement.
Bien, merci Anissa pour ces prévisions et ces températures. On vous retrouve évidemment demain, comme
avec
chaque
plaisir.
Jour, en direct à partir de 18h. Merci à vous. 19h15, dans quelques secondes, le Club des Idées avec le grand débat. Comment rebondir à 50 ans ? On en parlera avec nos invités et vos témoignages, nombreux déjà au standard. D'abord, c'est l'heure de la carte blanche de Nicolas Bouzou.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Nicolas Bouzou, économiste. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Alors ce soir, cher Nicolas, vous nous proposez rien de plus, rien de moins qu'un choc de simplification pour la campagne de vaccination.
Ah oui, on en a besoin. Déjà, un constat, la lenteur vaccinale française, elle continue. 4,4% des Français ont reçu une première dose de vaccin. 5% des citoyens membres de l'Union européenne. Ça monte un peu, en effet, mais c'est à comparer à 16% des Américains et à 30% des Britanniques. Et je ne parle pas, bien évidemment, d'Israël. Alors, non seulement nous avons assez peu de doses, mais ça, je dirais que c'est commun à l'ensemble des pays de l'Union européenne. Mais ce que l'on a vu aussi ces derniers jours, c'est qu'on en administrait très peu. Le ministère de la Santé a confirmé aujourd'hui que seul un quart des doses du vaccin AstraZeneca ont été injectées sur à peu près 1 million de doses livrées. Alors c'est sûr que dans un pays où seulement 60% des gens veulent se faire vacciner, ce qui est déjà assez faible, quand les politiques ont critiqué un vaccin, ce qui a été beaucoup le cas avec le vaccin AstraZeneca, ça n'arrange rien.
Oui, oui, ça veut dire qu'il y a plus de 40% des vaccins AstraZeneca qui dorment en ce moment dans les frigos.
Absolument.
Qui dorment dans les frigos. Bon, expliquez-nous alors ce choc de simplification.
Alors, il faut débureaucratiser. Hein. Débureaucratiser, ça veut dire ouvrir la vaccination à tous ceux qui souhaitent se faire vacciner. Ça veut dire permettre à tous ceux qui savent vacciner de le faire. Alors, ça peut se faire relativement simplement. Hein. On peut parfaitement imaginer de mettre en place une application sur nos téléphones portables à partir de laquelle tout le monde pourrait s'inscrire. Et à partir de là, eh bien, on a un algorithme qui convoque les gens en fonction de leur âge, en fonction éventuellement de leur pathologie. Mais il faut le faire et en même temps, il faut ouvrir les vaccinodromes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, parce que ce que l'on a vu dans certains pays, c'est que les gens comme vous et moi, relativement jeunes, qui se sentent plutôt en forme, ne sont bien évidemment pas prioritaires pour la vaccination, mais on peut parfaitement imaginer de recevoir un appel à 2 ou 3 heures du matin à « il nous reste une dose, est-ce que vous voulez bien faire 15 km pour venir recevoir cette dose ?» À titre personnel, ça ne me poserait absolument aucun problème. Et puis, il faut bien évidemment approvisionner les médecins, les pharmacies. Alors, la Haute Autorité de Santé a dit aujourd'hui hein, que les pharmaciens, les infirmiers, les infirmières auraient le droit de vacciner. Mais enfin, on a l'impression d'avoir toujours un coup de retard dans cette affaire. C'est toujours compliqué, c'est toujours lent. Et on aimerait bien quand même, pour des raisons d'efficacité sanitaire, bien évidemment, mais aussi, je vous l'ai déjà expliqué de nombreuses fois, pour des raisons d'efficacité économique, et puis aussi pour des raisons de fierté nationale, que la France, elle n'est pas en permanence sur cette question de la vaccination un temps de retard.
Merci Nicolas Bouzou pour cette carte blanche en faveur d'un choc de simplification pour la campagne de vaccination. C'est vrai que en matière de simplification et d'administration française, il y a encore un petit peu de boulot.
Un petit peu, vous êtes gentil.
Merci, merci Nicolas.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, dans le débat du Club des Idées, on s'intéresse donc aux quinquagénaires. Vous avez 50 ans ou un peu plus et vous vous demandez peut-être comment rebondir professionnellement et passer ce cap de la cinquantaine. C'est vrai que les plus de 50 ans sont un peu les grands oubliés de la crise sur un plan économique. Ils pourraient payer d'ailleurs, nous disent les spécialistes, on en parlera, un lourd tribut à la crise sociale qui s'annonce. On en parle donc ce soir avec Benoît Serre. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vice-président de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines. On en parle également avec Serge Guérin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à la Grande École de Commerce de l'INSEC, sociologue et auteur de Les Quinquados aux éditions Calmant Lévy, paru il y a un an en 2019. Et on en parle également avec Annie Jolivet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste et chercheuse au CNAM. Alors, pas facile d'avoir 20 ans en 2020, a dit récemment le président de la République, Benoît Serre. Pas facile non plus d'avoir 50 ans en 2021.
Pas facile d'avoir 50 ans tout court en fait. Hein, Alors ça ne va pas s'arranger
ou
en 2021.
Vous parlez en connaissance de cause ou pas ?
Alors je parle un peu en connaissance de cause, même si j'ai réussi à surmonter ce cap, mais que j'ai dépassé. Donc non, en fait, la cinquantaine sur le plan de l'emploi, hein, c'est un vrai sujet en France depuis nombreuses années. Et c'est vrai que la crise sociale qui s'annonce, parce qu'aujourd'hui elle n'est pas encore vraiment là, parce que tout le monde est sous perfusion, donc ça aide un peu. On a quand même pas mal de petits signes qui nous font penser que c'est d'abord cette catégorie d'âge-là qui va payer la facture.
Le taux d'emploi des seniors, je reprends une étude de France Stratégie, en 2019, c'était pour les 60-64 ans, on est un peu au-dessus des quinquas évidemment, c'était de l'ordre de 30%, alors que la moyenne européenne, c'est 42%.
Oui, on est le mauvais élève de l'Europe.
On est le mauvais élève de l'Europe.
Alors on s'est un peu amélioré sur un point, qui est que maintenant les entreprises savent mieux garder leurs seniors qu'avant. En revanche, celui qui perd son emploi à 55, 56, 57, sa capacité à en retrouver un est extrêmement faible par rapport à d'autres pays d'Europe.
Alors on va rentrer dans le détail et en parler, puis aussi avec les témoignages qui sont nombreux et qui nous attendent au standard d'Europe 1 en direct. Serge Guérin, d'abord une question un peu, comment dirais-je, sensible pour tous les gens qui nous écoutent et qui approchent ou qui ont plus de 50 ans. Est-il vrai qu'on est considéré comme un senior passé 50 ans ?
C'est même pire, dès 45 ans.
Dès 45 ans.
Il faut être considéré comme un senior. Enfin, il y a plein d'études et globalement, on est entre 30 et 50% des DRH qui considèrent après 45 ans, c'est fini, quoi.
Mais d'ailleurs, on le voit très bien. C'est assez paradoxal parce qu'on est aujourd'hui dans une époque quand même qui a plutôt tendance, à juste titre, à se dire que les quinquagénaires, ce sont un peu les nouveaux quadragénaires. On est apaisé, on est encore en pleine forme. C'est assez étrange de les ramener à cette appellation de senior.
On est bien d'accord, quand j'avais fait les quinquados, je disais entre autres, l'âge a rajeuni. Alors il a rajeuni pour tout le monde. Des gens de 70 ans en 2021, ils ressemblent plutôt à des gens de 45 ans ou de 50 ans de 1951. Quoi. Ouais. Donc des gens de 50 ans aujourd'hui, sont des gens qui globalement sont en pleine forme, qui sont parfaitement dans les questions technologiques, par exemple, qui savent parfaitement comment le monde fonctionne. Et en plus, ils ont, je dirais, un peu le sens du tragique, parce qu'ils savent aussi comment ça marche.
Ouais.
Mais on a inventé un concept, alors je ne suis pas mathématicien, mais il y a sans doute un théorème français en mathématiques qui fait que plus l'espérance de vie a augmenté, plus l'espérance de vie professionnelle a tendance à se réduire. Et chercher l'erreur, parce qu'évidemment, au bout d'un moment, et en même temps, d'ailleurs, on l'a dit, hein, on dit aux gens, il faut travailler plus longtemps, on a certainement raison, et en même temps, il y a un procès en vieillissement précoce dès 45 ans.
Alors, on va poser les enjeux du débat sur l'emploi, notamment avec vous, Annie Jolivet, économiste. Comment se fait-il que les quinquagénaires, les 50 ans et plus, sont les premières victimes du chômage et de ce taux d'emploi si faible qu'on évoquait à l'instant avec, avec Benoît Serre?
Alors, le taux d'emploi, me semble-t-il, est plus élevé que celui que vous avez annoncé. Hein. On est plutôt au-dessus de 40%.
Je parlais des 60-65 ans. Je n'avais pas le chiffre pour les quinquagénaires.
Oui, mais enfin, prendre les 60-65 ans, c'est prendre... En France, on a effectivement un retard par rapport à l'Union européenne sur cette tranche d'âge-là spécifiquement, tout simplement parce qu'on est rentré plus tard et plus lentement dans des réformes de retraite. Donc, en fait, on a des gens qui progressivement vont travailler plus tard. Ça commence juste à toucher aujourd'hui. Enfin, depuis quelques années, cette classe d'âge, il faut plutôt regarder les 55-64 ans. Et ceux-là, on n'est pas forcément, on n'est pas dans les meilleurs en Europe.
Mais on
est quand
même ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'avec la crise sociale qui s'annonce, hein, c'est un secret pour personne, il y a des plans de restructuration qui vont être massifs une fois que l'économie sera plus soutenue, à la fin du fameux quoi qu'il en coûte. Pourquoi ce sont à chaque fois, si tant est que ça soit le cas encore cette fois, mais je pense que Benoît Serre sera d'accord, ce sont les 50 ans et plus qui en font les frais? Parce qu'ils coûtent trop cher? Parce qu'ils sont mal adaptés à l'entreprise? Comment on l'explique?
Je pense qu'il y a deux phénomènes qui peuvent se conjuguer, mais qu'il faut peut-être différencier. Le premier, c'est qu'on a la possibilité de faire partir, alors aux frais de l'entreprise aujourd'hui, puisque l'État n'a met pas en place de dispositifs de pré-retraite publique, on peut faire partir des gens en anticipation de la retraite. Donc, un certain nombre de mois avant l'âge du taux plein, c'est ce qui se fait maintenant dans le cadre...
Voilà,
c'est des départs anticipés. Donc, dans ces cas-là, c'est en fait une retraite anticipée, largement financé par l'entreprise, puisque l'État ne finance plus, et un peu éventuellement par le salarié sous la forme de compte
épargne. Il y a d'ailleurs plusieurs
dispositifs,
parce qu'il y a aussi les ruptures conventionnelles qui peuvent être mises en place par les entreprises.
Oui, là, pour le coup, c'est des dispositifs plus généraux. Donc, en fait, vous avez cette population de gens qui sont proches de la retraite et qu'on va, en fait, on va les faire partir en retraite plus tôt, on va leur faire cesser leur activité. Et puis, vous avez la tranche en dessous de gens qui, eux, vont être touchés par des restructurations. Et là, ce qui joue beaucoup, c'est dans quel secteur les restructurations ont lieu.
Oui.
Si vous êtes dans des secteurs où il y a beaucoup de gens plus âgés embauchés, c'est évidemment eux qui vont, que vous allez voir particulièrement émerger au chômage.
Alors, on marque une première pause. On entendra Benoît Serre sur le vrai coût aujourd'hui de l'emploi des seniors, pardon de les appeler ainsi, mais c'est la qualification qui en a été faite par Serge Guérin à l'instant. Et puis, on entendra des témoignages aussi de quinquagénaires qui sont dans une situation de recherche d'emploi. Tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h30, on s'intéresse toujours dans le Club des Idées aux quinquagénaires. Comment rebondir après 50 ans professionnellement? Et on est en ligne avec Patrick, qui a 57 ans et qui est à la recherche d'un emploi. Bonsoir Patrick.
Bonsoir.
Vous habitez en Gironde, je crois?
J'habite en Gironde, oui, tout à fait, pas très loin de Bordeaux, en fait.
Oui.
Et alors, je voudrais juste rebondir sur une petite chose, parce que vous avez parlé des seniors.
Oui.
Moi, je préfère qu'on dise travailleurs expérimentés, si vous le permettez.
Vous avez raison. Vous avez raison, Patrick.
Voilà.
Vous avez raison. C'est vrai que senior à 50 ans, c'est pas très flatteur. Vous étiez
non,
responsable...
même à 45 ans. Hein.
Oui. Vous étiez responsable commercial dans une société qui vendait, je crois, du matériel médical. Vous avez quitté cette société à 50 ans. 53 ans, vous aviez 16 ans d'entreprise, c'était donc il y a 5 ans. Aujourd'hui, vous avez 57 ans et depuis 5 ans, vous enchaînez les petits boulots car vous avez du souci à retrouver un emploi stable. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les recruteurs, quand vous postulez à des emplois?
Alors, j'ai eu des recrutements assez... c'est assez hétéroclite, quoi. Je vais vous donner un exemple.
Oui.
La semaine dernière, j'ai été convoqué par un gros cabinet de recrutement dont je tairai le nom ici, et avec lequel j'ai fait deux entretiens. Arrive le moment où je dois avoir un entretien donc avec le directeur commercial de la société, qui est quand même une multinationale, grosse entreprise française.
Oui.
Tout se passe très bien, et puis arrive le moment où il me dit « moi j'ai 50 ans ». Je travaille dans des start-up depuis tant d'années, je suis peut-être en fin de carrière parce que c'est très difficile pour moi de retrouver un emploi en France si je quitte celui que j'ai actuellement.
Oui.
Et donc, il en vient à parler de mon âge, en me disant, mais vous savez, de votre côté, on va avoir énormément de mal à vous manager. Grosse surprise, bien sûr, évidemment. Et d'autant plus, rajoute-t-il derrière, que je vais avoir beaucoup de mal à travailler avec des gens de 35-40 ans.
Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Il y a vraiment une discrimination dans ce pays, dans notre beau pays, mais à un moment donné, je crois qu'il faut arrêter tout ça.
Alors,
parce qu'en fait, on est devant un sentiment d'impuissance quand on assiste.
Alors, on va faire réagir nos invités. Merci Patrick pour ce témoignage. On comprend votre problématique. C'est vrai qu'il y a le sentiment, Benoît Serre, d'une sorte de discrimination française liée à l'âge.
C'est vrai. C'est-à-dire que, d'ailleurs, Patrick a raison de dire travailleur expérimenté. C'est exactement ce qu'avait proposé la commission senior qui avait été créée par le gouvernement d'Édouard Philippe au moment de la réforme des retraites, qui proposait qu'on arrête de parler de seniors, parce que les seniors, c'est 45 ans, parce que c'est la loi. On n'a jamais bien compris pourquoi, on avait dit 45 ans. Et quand vous avez fait des études jusqu'à 25 ans, vous avez fait moins de la moitié de votre carrière professionnelle. Donc, bon. Alors, c'est vrai qu'il y a une sorte de présupposé aujourd'hui, avec beaucoup de managers, moi je le vis, hein, qui vous disent « mais je ne saurais jamais manager quelqu'un de plus âgé ». Ça, c'est un vrai présupposé. Il y a une autre chose qui apparaît aussi, et alors, c'est peut-être pas le cas de Patrick, mais c'est vrai que ça joue. C'est-à-dire que quand quelqu'un a passé beaucoup de temps dans une entreprise, on a un doute, peut-être pas fondé, hein, mais on a un doute sur sa capacité à se réadapter à une nouvelle entreprise. Et donc ça crée des freins. Maintenant, le terme que vous avez utilisé est le bon. En France, on combat toutes les discriminations à l'embauche, sauf celle-là. Il n'y a jamais eu de plan pour lutter contre la discrimination à l'embauche liée à l'âge. Et ça, c'est très dommage.
Serge Guérin, vous êtes professeur à l'INSEC, sociologue, auteur de ce livre remarqué qui s'appelle Les quinquados, ou Les quinquados d'ailleurs ?
Comment Les quinquados.
Ouais, les quinquados. Ouais. Voilà,
c'est les quinquados, quoi. Pour dire, on refait sa vie d'une certaine manière.
Et donc, quand on est quinqua et ado et qu'on a envie de rebondir et de refaire sa vie, être dans la situation de ce monsieur Patrick, 57 ans, qui ne trouve pas de boulot avec des jeunes de 35 ans qui lui disent « moi, je ne me sens pas de travailler avec toi », c'est dur quand même dans la vie. Comment est-ce qu'on peut faire pour remettre le pied à l'étrier ou tout simplement donner la chance à des quinquas de rebondir ? Parce qu'il y a une deuxième vie quand même après 50 ans.
Bah bien sûr, et puis il y a professionnellement, après 50 ans, il y a quoi ? Il y a 15 ans de vie professionnelle. C'est
pas pareil. Et puis ça va aller de...
Et puis ça, normalement, la logique voudrait qu'on travaille de plus en plus longtemps. C'est vrai que c'est difficile de dire aux gens qu'il faut travailler de plus en plus longtemps et de leur dire « ah, t'es trop vieux ». À un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et c'est vrai, Patrick a raison quand il parle d'expérience. C'est finalement, d'une certaine manière, il y a quelque chose qu'on ne valorise pas, c'est justement l'expérience. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de dire « mais j'ai appris des choses ». Donc j'ai une compétence. Et j'ai cette expérience. Et finalement, on va se dire, on va regarder que l'aspect négatif. Cette personne-là ne serait peut-être plus capable. Alors, c'est très vieux. Hein. La première étude que j'avais trouvée, c'était des sociologues américains. En 77, ils avaient demandé aux abonnés de la Harvard Business Review, donc des dirigeants, qu'est-ce que vous pensez des gens plus âgés ? Et c'est déjà, ils ne sont pas capables de s'adapter, c'est difficile de les manager, ainsi de suite. C'est-à-dire que ces choses-là sont des représentations. Et c'est vrai qu'on lutte sur toutes les discriminations. Tout le monde est un peu, c'est un peu le concours des victimes aujourd'hui.
Ouais.
Et le vieux, on met ça dans un coin, quoi. On est vieux très tôt.
Ouais.
Je fais exprès d'utiliser ce terme-là, qui est évidemment pas du tout le bon. Mais voilà, d'une certaine manière, on va considérer que avant c'était, mais par exemple, ces gens-là, ils sont pas capables de s'adapter aux nouvelles technologies. Quand on dit les nouvelles technologies, on parle d'Internet, ça fait 40 ans.
C'est assez fou d'ailleurs, parce qu'on considère, c'est ce que montrent aussi beaucoup les études de sociologie, et puis c'est ce que disent aussi les quinquas d'aujourd'hui, c'est le moment de la vie où on se sent le mieux dans ses baskets, où on est le plus épanoui, où on est le plus alerte, où on est en forme, où on a déjà une partie de sa vie de famille et ses enfants un peu derrière soi, en tout cas pour certains. Voilà, donc on a envie de... Et je voudrais qu'on partage le témoignage de Bruno, par exemple, qui est avec nous au Standard, 55 ans, qui a dû refaire... Bonsoir, monsieur. Qui a dû refaire, je crois, une formation il y a 4 ans pour développer des compétences après une rupture conventionnelle. Et ça a fonctionné ? Vous avez réussi à retrouver un emploi ?
Oui, tout à fait. Effectivement, je suis resté au chômage au moins 3 ans et j'ai eu l'opportunité de rentrer à l'école 42 pour pouvoir parfaire mes connaissances en informatique.
Hein. L'école 42, c'est l'école informatique de Xavier Niel, le patron fondateur de Free, voilà.
Exactement. Donc, on est entouré de jeunes et on se dit, c'est sûr que pendant cette période, on se dit, mais on ne va pas y arriver, c'est difficile. Je pense qu'on a, au niveau de notre âge, une cinquantaine d'années à peu près, on a l'atout justement de l'âge, c'est où on développe plus de responsabilités et ça a vraiment très bien fonctionné. Je suis resté entre 9 et 2 ans à l'école 42 et bon, après, je suis rentré à Pierre et Vacances en tant que en tant qu'assistante et maîtrise d'ouvrage. Et là, maintenant, je suis analyste de l'EI dans une grande société qui fait la maîtrise de l'énergie. Qui
bien, donc ça fonctionne plutôt bien, cette réorientation.
Ah, mais tout à fait. Exactement, exactement. C'est, parce qu'effectivement, on perd confiance. On se dit qu'on est Dieu, on n'a plus... On est complètement désarçonné, on ne sait pas quoi faire. Et pourtant, on a beaucoup d'atouts au fond, même si on a un certain âge. Quoi.
Bien, merci.
Vraiment, c'était une belle expérience.
Ben, merci d'avoir partagé ce témoignage qui est pour le coup assez optimiste, Bruno. Réaction Annie-Olivier, peut-être économiste, chercheuse au CNAM. Et puis j'ai une question subsidiaire, tiens. Est-ce que cette discrimination, appelons-la comme ça, l'embauche des plus de 50 ans parfois en France, est-ce qu'elle repose aussi sur une question de coût ? Embaucher quelqu'un qui a 30 ans d'expérience a un niveau de salaire évidemment plus élevé qu'embaucher de quelqu'un qui sort de ses études.
Tout dépend dans quel secteur vous êtes et à quel niveau de qualification. Ce qui est clair, c'est que si... passer certains niveaux de salaire, il peut y avoir une contrainte budgétaire dans l'entreprise ou dans. Enfin, c'est pareil pour n'importe quel type d'organisation. Ce qui compte à ce moment-là, c'est de savoir comment a été défini le poste et est-ce qu'on a identifié quel type de compétences on a besoin d'avoir. À ce moment-là, si on a l'impression que c'est des compétences tout venant, on va être réticent à embaucher quelqu'un qui a un portefeuille de compétences qui est beaucoup plus riche et dont parfois on a du mal, en tant que recruteur, à analyser toutes les composantes. Donc, si c'est ça, on a plutôt tendance à se dire, je vais me reporter sur des candidats plus jeunes que je pourrais former à ma main, comme on le dit souvent, et qui présentent des caractéristiques que j'arrive à apprécier. Ceci dit, vous pouvez passer à côté, j'allais dire, d'une bonne affaire, mais ça veut dire que pour le recruteur, il faut faire ce que font certaines associations, par exemple, c'est de reformater son offre d'embauche en fonction des profils qui sont disponibles, et donc de faire une sorte d'aller-retour, une interaction off-demande. Ne pas rester sur une candidature. Mais ça ne peut être fait que pour des candidatures en petit nombre ou des candidatures qui sont vraiment très spécifiques.
Bien. Et j'ajoute que d'ailleurs, il y a une discrimination dans la discrimination parce que les femmes de plus de 50 ans sont encore plus impactées que les hommes de plus de 50 ans. C'est important aussi de le souligner. 19h39, on se retrouve dans quelques secondes avec nos témoignages, nos invités. Et on va vous donner des conseils aussi pour les plus de 50 ans. Peut-être Benoît Serre peut donner quelques conseils pour bien réussir un entretien d'embauche quand on a 50 ans et plus. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec la suite de notre grand débat du Club des Idées, 19h41, et on continue de s'intéresser au quinquagénaire. Comment rebondir passé 50 ans, notamment sur le plan professionnel. On continue d'en parler avec Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines. Une question très simple, Benoît Serre. On parlait tout à l'heure du départ à la retraite ou des départs anticipés à la retraite. On sait que l'âge du départ à la retraite va continuer de s'allonger. Parfois, pour avoir un taux plein, c'est 65 ans. Parfois même, c'est 67 ans. Qu'est-ce qu'on fait quand on est licencié de son entreprise à 55 ans ? Qu'est-ce qu'on fait pendant les 12 ans de carrière professionnelle qui nous reste pour arriver au taux plein si on ne trouve pas de job ?
Effectivement, alors, pour arriver au taux plein, trouver un job, c'est très difficile. Parce que, autant à 57 ans, ça va un peu mieux parce que vous êtes pris en charge par les ACEDIC pendant 3 ans au lieu de 2. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de dispositifs en fait, qui... à la fois 10 en même temps, à 45 ans on est vieux, ce qui n'est pas vrai, mais qui font démarrer les dispositifs qui protègent les gens à 57-58. Donc comme s'il y avait 12 ans où personne ne s'intéresse à rien.
Ouais, c'est comme la vaccination, il y a un trou noir.
Exactement. Par rapport à la crise sociale qui se profile, on voit quand même beaucoup de choses dont vous parliez tout à l'heure, qui sont les ruptures conventionnelles collectives, les congés de fin de carrière qui protègent les gens jusqu'à la retraite. Ils partent à taux plein, en fait.
C'est un bon plan, ça, d'ailleurs, de partir en retraite anticipée ?
Non, ça, c'est plutôt un bon plan. C'est pas vraiment une retraite anticipée, en fait. C'est que l'entreprise vous garde dans ses effectifs et vous rémunère, peut-être un peu moins de ce que vous aviez, mais en cotisant à 100%, ce qui fait que vous partez bien à la retraite à taux plein. Mais ça, c'est réservé aux grandes entreprises, parce que ça coûte très cher. Et le problème, c'est que la crise qui se profile va toucher ces gens de 55, 50, 60, aussi dans les petites boîtes. Et là, peut-être qu'on n'a pas les moyens de financer ça. C'est pour ça que l'État... Moi, je trouve que... Enfin, on l'a dit à la NDRH, que la question des seniors et la conséquence sociale de cette crise sur les seniors, c'est un impensé complet du plan de relance. On devrait être capable de créer un plan, on ne va pas l'appeler senior, expérimenté, à la hauteur du plan jeune. On a été capable de le faire pour les jeunes, mais ça va être pareil pour les seniors, même pire. Et puis, le dernier point par rapport à cela, c'est qu'effectivement, la question du sujet qu'on évoquait juste avant, de la reformation, de la réacquisition d'un nouveau métier d'adaptation, c'est un sujet central. Je vais vous donner un exemple d'absurdité. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des contrats de professionnalisation qui permettent de mixer un travail et une formation, qui sont ouverts après 45 ans. C'est une nouveauté, et c'est très bien. Sauf si vous êtes encore au chômage. Ce n'est que si vous êtes en fin de droit que vous y avez droit. C'est absurde.
Oui. Il y a un trou dans la raquette, là aussi.
Bien sûr,
il y a
faudrait.
Un gros trou dans la raquette.
Au contraire, parce que plus vous vous éloignez du moment où vous avez un emploi, plus votre difficulté est grande à en trouver un. Donc il faudrait mettre tous les moyens de formation, de contrat de professionnalisation ou autre, juste au moment où vous tombez au chômage. Et ça réduirait assez probablement le nombre de chômeurs.
Annie Jolivet, pour parler très simplement, est-ce qu'il y aurait un levier pour contraindre un peu les entreprises ou les inciter, on va dire ça comme ça? Il y a eu des aides à un moment, des espèces d'emplois jeunes, mais appliqués aux seniors, qui avaient été lancées, je crois, par le président François Hollande à l'époque. Est-ce qu'il y a un moyen d'inciter les entreprises à embaucher de façon plus massive les plus de 50 ans?
Mais... Là, concrètement, en ce moment, je ne sais pas quelle incitation pourrait marcher. Enfin, le premier mécanisme qui fonctionnerait, c'est de la création d'emplois. Mmh. C'est une fois que vous avez de la création d'emplois, même les gens plus âgés qui sont au chômage et qu'on retrouve en très forte proportion dans les chômeurs de longue durée, finissent par être touchés par les créations d'emplois. Ça avait été le cas à la fin des années 90.
Oui, on en revient toujours un peu à la même question.
Mais
faut
oui,
le
parce que mais derrière le problème
jobs,
d'emploi, c'est pas juste... Enfin, je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre des milliards sur la table, ce n'est pas tellement la question. Mais c'est vrai qu'on a une vraie problématique d'organisation des filières professionnelles, de réflexion sur ce qui peut aider des filières professionnelles à passer le cap d'une évolution difficile. Il y a plein de filières qu'on a laissé tomber. Regardez, on a laissé tomber le textile. On voit réapparaître, alors je ne dis pas que ça va employer des milliers de personnes, mais on voit réapparaître des poches, des niches d'entreprises textiles avec la grande chance qu'elles ont, ces entreprises, c'est qu'il y a encore des compétences de salariés âgés aujourd'hui qui sont encore là sur le territoire pour prendre ces emplois. Donc tout n'est pas perdu. Simplement, il y a aussi une question de vision et de stratégie, peut-être aussi nationale. Enfin,
j'ai une petite question, Serge Guérin, puisque vous avez écrit ce livre, Les quinquados, sur la psychologie aujourd'hui des quinquagénaires qui ont plus de 50 ans. Parce qu'on tourne autour, depuis tout à l'heure, évidemment, sur la question de l'emploi. Est-ce qu'il y a aussi beaucoup de Français ou de Françaises de plus de 50 ans qui ont envie de se reconvertir, qui ont envie de changer de vie, de partir dans une autre direction, arriver à la cinquantaine?
Énormément. Énormément. Un des éléments, moi, qui m'avait touché, c'est que je dirige un master qui forme des directeurs des établissements de santé. On est dans le domaine du care. Dans le domaine du care, du prendre soin, de l'accompagnement des gens âgés, fragiles, malades. Annie parlait du nombre d'emplois créés. Là, on est dans un secteur où on a besoin.
Oui.
Mais ce n'est pas en milliers.
Oui.
C'est en centaines de milliers de personnes. Et entre autres, des gens qui ont un peu de bouteille. Parce que ce n'est pas évident d'accompagner des gens en grande fragilité. À 20 ans, vous n'êtes pas toujours très très à l'aise. Donc c'est des gens à des niveaux de formation d'ailleurs assez différents. Donc là, par exemple, moi j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient candidats dans ce master qui me disaient « Mais moi, je veux retrouver du sens. Je veux faire autre chose. » Y compris d'ailleurs parfois en gagnant moins. Parce que ce qui les intéresse à un moment donné, et là on le voit, il y a une étude AG Carcou qui est sortie il n'y a pas longtemps là-dessus, disant « La question du sens. » Alors, ce n'est pas seulement les plus âgés. Il y a des gens beaucoup plus jeunes qui ont envie de sens. Mais en tout cas, à la cinquantaine, en ce moment en plus avec toute l'histoire du Covid, il y a plein de gens. Mais quand je dis plein, c'est 30%, 40% qui ont envie, qui se disent « il faut que je fasse autre chose parce qu'il faut aussi que je me sente plus utile ». Et puis, une des manières aussi de se sentir dans le coup, de récuser cette notion de ce procès en vieillissement précoce, c'est justement de faire de la formation et de se dire « mais j'ai réussi ». La fierté, j'avais fait une étude dans une grande entreprise, des gens disaient « la fierté que j'ai pu le faire, j'ai pu me reformer et j'ai pu faire autre chose. » Mais quelle satisfaction aussi.
Je vais vous poser la question, Serge Guérin, parce qu'on va écouter un dernier témoignage, il nous reste quelques instants. C'est Nadine. Bonsoir, madame.
Oui, bonsoir.
Vous avez 61 ans, vous habitez à Montauban, et je voulais qu'on vous entende ce soir parce que votre témoignage est très important. C'est aussi une note d'espoir pour terminer cette émission. Vous avez été licenciée de votre poste quand vous aviez un peu plus de 54 ans, je crois. Vous étiez notamment dans la culture, vous travailliez pour une association pendant 18 ans, et vous avez fait une reconversion professionnelle, alors là, vraiment du tout au tout, car vous avez fait une formation de kinésithérapeute, et ça a très très bien fonctionné pour vous.
En fait, j'ai fait une formation de kinésiologie. C'est pas tout à fait
kinésiologie.
La kinésithérapie.
Oui,
plutôt.
Merci
de
la précision.
Alors, quand la personne parlait de sens, effectivement, c'est aussi une recherche de sens pour moi d'avoir fait cette formation-là. J'ai réfléchi après mon licenciement à quel sens allait prendre ma vie, et puis je suis tombée par hasard sur une journée porte ouverte dans une école de kinésiologie. Je suis allée à cette journée porte ouverte, j'ai écouté comment la personne présentait la formation.
Et vous ne regrettez rien aujourd'hui, vous êtes contente de cette, cette reconversion professionnelle. Vous êtes ravie.
Oui.
Et vous racontez d'ailleurs que lors de la formation, il y avait une grande majorité évidemment de jeunes et il y avait 4 personnes comme vous qui avaient plus de 50 ans et donc qui avaient décidé de prendre ce virage professionnel.
Oui.
Bien. Oui. Merci Nadine d'avoir partagé ces quelques mots avec nous. Benoît Serre, c'est important aussi ça de permettre à des gens d'avoir une seconde vie professionnelle grâce à la formation, oui, grâce au soutien des pouvoirs publics et des aides.
D'abord ça c'est un premier point, puis j'ai envie de finir quand même sur une note très optimiste, parce que j'observe dans certaines entreprises, notamment des grandes entreprises, que dans la période très tendue qu'on connaît aujourd'hui, on recommence à redécouvrir les vertus de l'expérience, du calme, du recul et de la hauteur de vue. Et que ça ne s'acquiert pas dans les meilleures écoles. Ça s'acquiert avec le temps.
Et donc l'expérience.
Exactement. Et je pense que ça, vous disiez tout à l'heure, comment faire pour se vendre différemment. Je suis, pour l'avoir fait moi-même, quand vous avez un senior ou un expérimenté qui arrive, et que vous vous rendez compte qu'il est là plus pour vous apporter son expérience, son recul, son calme. Parce que souvent, il n'est plus dans le combat de la carrière.
Oui.
Ça change tout dans une boîte, ces gens-là.
Oui.
Parce qu'ils apportent un peu de calme, et dans les périodes de crise, on a besoin de calme.
Les 3 petits conseils qu'on peut donner peut-être pour réussir un entretien d'embauche, passer 50 ans, j'ai vu rester positif, définir clairement ses compétences et son expérience.
Son expérience surtout.
Et peut-être aussi, alors c'est là que ça peut faire mal au porte-monnaie, mais savoir peut-être aussi revoir ses exigences salariales.
Oui, ça dépend, parce que c'est vrai qu'il y a une espèce d'a priori, on pense que les personnes expérimentées sont forcément très chères.
C'est pas toujours le cas.
Et ensuite, de temps en temps, il y a un moment où il faut être réaliste aussi. On sait que c'est difficile de trouver un job dans un pays à chômage de masse, encore plus à cet âge-là. Donc il y a un moment, il faut trouver le bon équilibre et il ne faut pas se brader. Mais en même temps, il ne faut pas être totalement braqué, sinon un matin, on ne savait rien. C'est le bon équilibre à trouver.
Bien. Merci infiniment à tous les 3. Je suis navré, on est contraint de s'arrêter. On avait encore plein de témoignages et de choses à dire, mais on aura l'occasion, c'est promis, de faire une autre émission sur le sujet. Il y a beaucoup à dire et l'emploi, on n'a pas fini d'en parler dans les mois et les années qui viennent. Merci en tout cas à tous les 3.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h53, la suite du Club des Idées d'Europe Soir avec les archives. 3 minutes pour comprendre, ça s'appelle le jour où.
De faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Bonsoir Didier François.
Bonsoir Julien.
Alors ce soir, en ce 2 mars, le Maroc fête le 65e anniversaire de son indépendance retrouvée. Ce jour où, on est en 1956, la France annonce la fin de son protectorat sur le royaume chérifien.
Oui, sous la forme d'une déclaration commune, faite côté français par le ministre des Affaires étrangères, Christian Pinault, et côté marocain, par un conseiller du roi Mohamed V, le pacha Mbarek Bekaï, qui s'exprime au micro du correspondant d'Europe 1, Gilbert Lozin.
Le gouvernement de la République française confirme solennellement la reconnaissance de l'indépendance du Maroc, laquelle implique en particulier une diplomatie et une armée, ainsi que sa volonté de respecter et de faire respecter l'intégrité du territoire marocain garantie par les traités internationaux.
Alors qu'en Algérie, le soulèvement indépendantiste tourne au conflit ouvert, la France et le Maroc choisissent le divorce à l'amiable. Dès l'été 55, Edgar Faure, le président du Conseil, décide d'ouvrir à Aix-les-Bains des négociations avec le palais marocain, le Marzen, pour préparer une transition pacifique. Des discussions qui progressent assez vite puisque dès le 6 novembre 1955, le gouvernement français reconnaît le principe de l'indépendance du Maroc et engage de bonne foi, autorise le sultan à regagner son royaume, une cérémonie que raconte le grand reporter d'Europe 1, Louis Rognoni.
Il est 12h40. La voiture du sultan du Maroc, Sa Majesté Sidi Mohamed Ben Youssef, vient de s'arrêter sur l'aire d'envol du terrain de Villa Coublay. Le sultan, qui est vêtu de sa traditionnelle djellaba bleue, finit de lire son papier et son fils, le prince héritier Moulay Hassan, se prépare à lire la traduction de la locution qu'est en train de faire son père.
Il nous est agréable, avant de quitter la France, d'exprimer à Monsieur le Président de la République, au gouvernement et au peuple français, nos vifs remerciements pour l'accueil amical et l'hospitalité qu'ils nous ont réservé.
Alors ce sont des troupes françaises qui, sur le tarmac, jouent l'hymne de la royauté chérifienne et la dynastie alaouite qui règne sur le Maroc sans discontinuer depuis le XVIIe siècle. Une marche d'ailleurs composée par un officier français, le capitaine Léo Morgan, chef de la musique du sultan durant le protectorat, ce statut juridique tout à fait particulier, imposé par la France en 1912 pour contrecarrer les ambitions de l'Allemagne au Maroc, car à la veille de la Première Guerre mondiale, le Kaiser nourrit de sérieux appétits pour ce débouché stratégique en Méditerranée. Otage de ce bras de fer entre les puissances européennes, le sultan doit manœuvrer serré pour éviter que son empire soit ravalé au rang de simple colonie. Officiellement, le résident général veille aux intérêts supérieurs de la France et conseille le sultan sur les affaires stratégiques, mais dans les faits, il détient tous les pouvoirs et se comporte en véritable proconsul, c'est vu se confondant souvent avec celle des colons les plus riches et les plus conservateurs qui cherchent à restreindre l'autonomie de décision du Marzen, ce qui va évidemment provoquer la réaction des élites marocaines. En 1934, les nationalistes fondent un parti politique qui réclame la fin du protectorat français et son remplacement par une monarchie constitutionnelle. Le mouvement vers l'indépendance est en marche et comme pour le reste de l'Empire français, la défaite de 1940 face aux Allemands va ouvrir de nouvelles perspectives. Alors que la République refuse à la libération le démantèlement de son empire colonial, des émeutes éclatent comme celle de Casablanca en juillet 1955 que couvre le grand reporter d'Europe 1, Louis Rognoni.
Arrivé à Casablanca par l'avion de l'UAT à minuit, j'ai traversé une ville déserte au silence impressionnant et hostile. De temps à autre, notre voiture a été stoppée par une patrouille de police pour vérification d'identité. Mais si la journée a été relativement calme en ville européenne, on ne peut pas redire autant de la ville arabe. Le bilan des morts de cette journée est difficile à établir, les victimes étant toutes marocaines.
Pour arrêter ce cycle de violence, le sultan qui avait été exilé à Madagascar en 1953 est autorisé à reprendre la souveraineté sur son royaume. Le 16 novembre 1955, Gilbert Lauzin raconte pour Europe 1 son retour triomphal.
Ici Gilbert Lauzin qui vous parle de Rabat. Je suis en ce moment sur le terrain de Rabat Salé. Il est exactement 11h35 GMT et l'avion qui ramène de Paris, de Saint-Germain, le sultan Mohamed V vient de se poser sur le terrain.
Au fur et à mesure de l'approche du palais impérial, la foule devient plus dense. 150 000 personnes au moins acclament maintenant le sultan qui apparaît accompagné par ses deux fils, leurs altesses, les princes Moulay Hassan et Moulay Abdallah.
Une liesse extraordinaire, vous l'entendez, qui reste à jamais gravée dans la mémoire des Marocains. Ils ont d'ailleurs fait de cette date du retour royal le jour anniversaire de leur indépendance.
Merci Didier, Didier François pour les archives d'Europe Soir. Merci à vous.
Europe 1, Julien Bugier.
Dans quelques secondes, le rappel de l'info, Julien Peirce. Et puis Émilie Mazoyer pour une émission absolument exceptionnelle autour des commémorations pour les 30 ans de la mort de Serge Gainsbourg. Salut Émilie.
Salut Julien.
Ça j'avoue, s'annonce grandiose ce soir.
J'avoue. Oh là là, alors oui, là c'est la javanaise. Ça va être superbe. On a déjà toute une première partie d'émission, un documentaire sonore avec les archives d'Europe 1, sachant que Serge Gainsbourg a passé beaucoup de temps à Europe 1 et aussi à Europe 2 au moment de son lancement. Donc on a plein de choses exceptionnelles. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, on sera avec Dany, pour qui il avait écrit Comme un boomerang.
Oui.
On sera aussi avec Alain Chamfort, pour qui Gainsbourg avait écrit Manu Reva. Et puis on sera avec son fils, Lulu Gainsbourg, qui sera avec nous au téléphone depuis Amsterdam. C'est là qu'il habite en ce moment.
Bien, beau programme et de la belle musique.
Toujours.
On ne s'en lasse pas. Et déjà 30 ans. Déjà 30 ans,
ouais, c'est
voilà.
Dingue.
91. Merci. Merci et à tout de suite, Émilie. On sera évidemment au rendez-vous pour cette émission exceptionnelle. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à 18h pour le 18-20. Et d'ici là, on écoute Le Monde Changer, évidemment. À demain.